Le réseau Cogeco vous présente Entre nous. Voici Sylvain Ménard.
Même s'ils pratiquent tous les deux le même métier, on serait porté à croire que nos invités du jour ont une approche totalement différente de leur boulot. Pourtant, quand on y regarde de plus près, on constate qu'ils sont tous les deux animés par les mêmes principes et surtout par la même passion. Bonjour Patrick Lagacé, journaliste à la presse.
Salut.
Bonjour Bertrand Raymond, journaliste devant l'Éternel.
Merci beaucoup de l'invitation.
Ben, c'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. Un couple improbable en entrevue ce matin et pourtant, quand on lit la biographie de Bertrand Raymond, ben, c'est pas une biographie autant qu'une enfilade de récits. 50 ans parmi les géants, sur Tubize, ben, c'est Patrick Lagacé qui signe la préface.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui vous unit?
Ben, on a travaillé ensemble au Journal de Montréal. On ne se côtoyait pas beaucoup parce que les gars des sports étaient souvent, tu sais, en couverture. Moi, j'ai toujours admiré Bertrand depuis que j'étais tout petit. C'est-à-dire que je lisais dans le journal, mais je l'écoutais aussi à la télé, à couverture du Canadien. Et un jour, j'ai dit à Bertrand, je me rappelle pas trop dans quelles circonstances, mais j'ai dit, Bertrand, tu peux pas t'en aller sans faire un livre sur tout ce que tu as vécu dans cette carrière-là. Et quelques années plus tard, ben, l'éditeur m'a contacté pour que je fasse la préface.
Et souvent, les journalistes, comme toi, Bertrand, vous avez tendance à croire que ce qui vous est arrivé, oui, c'est ça, ça a été rapporté, sauf qu'il n'y a pas de quoi en faire un livre. Souvent, on peut avoir une réticence. Et pourtant, quand on lit ça, permettez-moi l'expression en chinois, c'est un page-turner.
j'ai eu une réticence, effectivement, parce que ça m'a pris un certain temps avant de décider de... J'aime pas vraiment parler de moi, ça devenait inévitable si j'étais pour faire le tour du jardin. Et juste avant d'aller plus loin, l'idée d'avoir Patrick pour la préface, c'est moi qui l'ai suggéré à Urtubiz et j'ai dit à Urtubiz, si Patrick, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas la faire, ce livre-là n'aura pas de préface. C'était lui ou personne d'autre.
Ah, à ce point-là?
Oui, c'était... C'était assez évident. Il trouvait chez Urtubiz que c'était une façon différente de procéder. Oui. Un livre de sport qui est écrit par un journaliste qui n'est pas identifié au sport. Oui. Mais moi, je voulais que celui qui fasse la préface soit un vrai journaliste.
Mais toi, Bertrand, qu'est-ce que tu vois chez Patrick Lagacé? Est-ce que tu te reconnais dans un journaliste qui, finalement, est beaucoup plus politico-social que sportif?
Oui, mais quand on était au Journal de Montréal, j'ai vu dans sa préface qu'il observait des fois comment je patinais vite à l'intérieur du journal, mais c'était la même chose pour moi. Tu sais, Patrick Lagacé, premièrement, quand Patrick Lagacé est parti du Journal de Montréal pour aller à la presse, j'ai trouvé que c'était une perte énorme pour le Journal de Montréal.
En effet.
Et j'aimais la façon qu'il travaillait mon admiration a grandi avec ce qu'il a fait au cours des dernières années. Ouais. Puis à l'heure actuelle, Patrick, c'est le journaliste au Québec à l'heure actuelle et je suis très fier qu'il ait signé cette préface.
Quand on lit 50 ans parmi les géants, chez Urtubiz de Bertrand Raymond et les articles de Patrick Lagacé, on se rend compte, Patrick, que tu as retenu le conseil que Bertrand Raymond t'avait donné quand tu es devenu chroniqueur au Journal de Montréal. Trouve et raconte de bonnes histoires.
Exact.
En mettant l'humain au centre de tout.
C'est la conception que je me fais du métier et Bertrand... j'y vais au présent parce que il raconte encore des histoires sur le site de RDS et quand il commente, c'est une autre forme de journalisme, mais raconter des histoires en chronique, je pense que c'est l'essence d'une chronique. Moi, je me souviens d'une chronique, corrige-moi si je me trompe, Bertrand, c'était même pas du sport, c'est au Grand Déluge du Saguenay, avait parlé à une famille de victimes d'enfants, raconter une histoire que ça touche la culture, les sports, la politique, l'actualité, le fait divers, c'est raconter une histoire.
Ouais.
Et moi, j'ai toujours admiré ça chez Bertrand. Et même si j'étais pas un journaliste sportif, j'avais pas l'ambition d'être journaliste sportif, mais je le lisais tout le temps.
Ouais.
Parce que il y avait des bonnes histoires, puis j'aspirais à écrire des bonnes histoires.
Moi, je trouve qu'il y a les athlètes, en fait, ils ont les mêmes problèmes que les gens qui nous lisent. Ils ont des problèmes familiaux, ils ont des problèmes financiers, ils ont la maladie, eux autres aussi. Et quand on raconte des histoires comme cela, ils se reconnaissent là-dedans.
Tiens. Ben, c'est ce qu'on constate quand on lit tes récits 50 ans parmi les géants, je le répéterai jamais assez. Les sportifs sont des gens qui sont très, très, très couverts dans les médias. Ouais. On a regardé le palmarès d'Influence Communication cette année. Sur les 50 premiers noms qui sortent, il y a 25 personnes qui sont reliées au Sport Direct et 20 aux Canadiens.
Oui.
Ceci dit en passant. Trouver des angles différents dans ce livre-là, il y a un récit à propos de Ronald Coury, les origines de Ronald Coury. On dépasse de beaucoup, beaucoup, beaucoup le grand boss du Canadien pendant près de 20 ans, finalement.
Ouais, c'est sûr. Puis quand j'ai rencontré Ronald, parce que je voulais vraiment lui tirer les verres du nez qu'est-ce qui s'était produit dans l'affaire de Patrick Roy. Parce que si Ronald Coury avait voulu, il aurait dit à ces deux jeunes, le directeur général Régent Houle puis le Mario Tremblay, il aurait dit, vous allez me régler ça tout de suite. Là. Vous allez vous asseoir avec lui. Vous allez.
Mais accordez-vous.
Ouais. Mais quelques jours avant qu'il congédie dit lui-même Serge Chavard s'apprêtait à échanger Patrick. Donc, Ronald était parfaitement au courant de ce qui s'en venait. Il est très, je pense qu'à quelque part, il était un peu à l'aise. Il n'a pas aimé la chicane que ça débordait dans le public, mais il savait fort bien que ce que les deux jeunes s'apprêtaient à faire avec Patrick, c'était dans les plans de l'organisation.
Est-ce que des choses comme ça seraient possibles à l'ère des réseaux sociaux maintenant où tout finit par se savoir? Ben, tout a toujours fini par se savoir, mais là, ça finit par se savoir vite, puis des fois, un petit peu tout croche.
Il y a beaucoup de choses qui finissent par se savoir de nos jours, parce que les journalistes font leur travail, etc. Mais je pense que Bertrand a grandi dans une époque où, d'abord, les journaux étaient immenses.
Oui.
Les journalistes sportifs comme lui étaient immenses. Le Canadien de Montréal est encore immense, mais on pouvait encore se frotter au monstre sacré qui était les joueurs. Aujourd'hui, je pense que Bertrand va être d'accord avec moi, je pense qu'il y a une difficulté supplémentaire pour raconter les histoires, parce qu'on revient toujours à ça, raconter des histoires qui concernent les joueurs du Canadien aujourd'hui. Le lien, c'est plus du tout le même entre les journalistes et les athlètes du Canadien de Montréal. Je pense que le lien est un peu désincarné.
Ouais, je pense que quand il arrive un gars de 19 ans chez le Canadien et qu'il se fait dire par la direction du Canadien, fais attention à ce que tu vas dire, là. Tu sais pas comment ça va être interprété dans les médias et tout ça.
Ouais.
Alors, lui, là, s'il passe 10 ans avec le Canadien, pendant 10 ans, il va faire attention à ce qu'il dit. Donc, on a plus, il y en a plus d'histoire. Et tous les joueurs se font dire, faites attention à ce que vous allez dire.
Ouais.
Alors, c'est tellement contrôlé. Et à quelque part, il y a les genoux qui arrivent dans le milieu, ils peuvent être intimidés à leur tour par la direction du Canadien qui veut dire, hey, ce matin, il me semble que tu nous as critiqué un peu. Oups!
Oui, c'est ça.
On rentre le poignard un peu, là, pour les prévenir.
Tu deviens le problème dans le vestiaire subitement en dedans de 5 minutes, hein.
Oui.
Mais il y a comme, tu sais, je disais que l'époque a changé dans le fond. Et quand je lisais le livre de Bertrand, 50 ans parmi les géants, et quand t'écoutes, moi j'ai souvent écouté les vieux de la vieille au Journal de Montréal quand j'étais là, raconter leurs histoires de guerre. Il y avait à une époque plus de personnages, je pense, dans le sport, mais ailleurs dans la société.
Oui.
Prends un politicien comme Jean Garon, par exemple.
Mm-hmm.
C'était un homme coloré. C'était pas le chef du Parti québécois, mais il avait toujours un point de vue. Il était toujours là pour l'exprimer. Aujourd'hui, là, d'information politique actuelle, là, tasser les chefs de parti. C'est qui le Jean Garon de la CAQ? C'est qui le Jean Garon du PQ?
On ne sait pas.
Il n'y en a plus. Mais c'est la même chose avec le Canadien. C'est qui le Guy Lafleur du Canadien aujourd'hui qui dit le fond de sa pensée?
Et pendant les campagnes électorales, c'est tellement polarisé autour du chef ou de la chef.
Exact.
La première ligne du Parti québécois ou du Parti libéral, c'est qui? On voit Lisée, on voit Couillard, mais les gros noms, comme dans le temps du gouvernement de René Lévesque en 76, les Camille Lorrain, les Jacques Parizeau, les Robert Burns, qui étaient vraiment mis de l'avant maintenant, comme dans les sports, où il faut tout contrôler, puis il faut faire 50 demandes avant d'avoir accès à un entretien.
Quand Patrick demande c'est qui le Guy Lafleur aujourd'hui, là, vers qui on peut se tourner pour une bonne histoire, là, il y en a tellement pas qu'on se tourne encore vers Guy Lafleur 25 ans plus tard.
C'est
encore lui qui a la meilleure histoire.
C'est tellement vrai. Bertrand Raymond, tu racontes au début de ta carrière au Journal de Montréal, évidemment, tu travaillais avec Jacques Beauchamp.
Oui.
Dans cette ère où on dénonce des fois des comportements qui peuvent être intimidants ou un peu dérangeants, travailler pour Jacques Beauchamp, ça devait être quelque chose. Un monsieur qui couchait au Journal de Montréal et qui pouvait congédier du monde et les réengager le lendemain matin et qui pouvait se promener en sous-vêtements dans le bureau parce qu'il s'était couché trop tard la veille sur le sofa.
Mais ce qu'on retenait de lui, c'est que c'était un énorme travaillant. Puis on est tous arrivés au Journal de Montréal. Quand Jacques Beauchamp est passé du Montréal Matin au Journal de Montréal, mm-hmm. bon, lui, il s'est dit, on n'a pas d'argent pour embaucher des grosses têtes du journalisme sportif à Montréal. On va aller un peu partout en province.
On va aller chercher les petits
on
gars.
On va embaucher les jeunes. Mm-hmm. On va les développer, puis on va les avoir pour nous autres longtemps. Et c'est effectivement ce qui s'est arrivé, parce qu'on était tous là autour depuis 40 ans quand il est arrivé le lockout au Journal de Montréal.
Non, mais effectivement, alors, les Bob Cadieux, toi et puis Pierre Lecourt, c'est tout du monde qui sont arrivés à peu près en même temps. André Rousseau.
Oui, oui. Puis on a tous grandi là-dedans. Mm-hmm. Puis on se disait, hey, si le boss couche au journal parce qu'il n'a pas le temps de rentrer à la maison ou il est épuisé, on serait malvenu de prendre ça légèrement, nous autres. Hein? Alors, on travaillait aussi fort que lui. Puis si on passait à côté d'une nouvelle, ouais. Il y avait un truc, Jacques Beauchamp. Comme on était tous des jeunes et qu'il ne voulait pas nous écraser par la pression, il y avait son adjoint Jean-Pierre Sange par la voie duquel tout passait. Donc, si un journaliste manquait une nouvelle sur son beat, il rentrait déchaîné dans la salle de rédaction, mm-hmm. puis il parlait à Sancho, qu'on ouais. appelait Sancho, là, puis il disait, Sancho, mon tabarnouche, puis il disait pas tabarnouche, il dit, on a encore passé une, puis là, moi, j'avais dit à Jean-Pierre Sange, j'ai dit, moi, là, si Jacques Beauchamp rentre dans la salle, là, puis il me descend devant tout le monde, je serais pas capable de le prendre, je pense que je vais aimer mieux me retourner à Chicoutimi. Il dit, il le fera jamais, tous les problèmes du journal passent par moi. Puis il savait qu'en engueulant Jean-Pierre Sange, le gars qui s'était fait scooper dans la salle, il savait que c'est de lui qui parlait. C'était Patrick, sa méthode.
Patrick Lagacé, est-ce que cette ambiance-là existe toujours dans les salles de rédaction? On a tellement l'impression que vous êtes des satellites et que vous vous promenez avec vos téléphones intelligents.
C'est une autre époque. Ce que Bertrand décrit présentement, ce qu'il décrit dans mm-hmm. son livre, c'est une autre époque. Moi, je me suis fait raconter ces histoires-là. Ouais. Mais la société change, les organisations changent. Ouais. Comment je te dirais? Ce que moi, j'ai vécu au Journal de Montréal quand je suis arrivé en 99, c'est pas la même chose que ce qu'un jeune du Journal de Montréal vit en 2017 s'il est embauché. Je suis convaincu.
Est-ce que le journalisme y a perdu quelque chose?
Probablement, ouais. Oui. Je pense qu'il y avait une couleur au journalisme qui était enraciné dans l'époque. C'est la même chose aux États-Unis. Tu regardes ce que les Américains faisaient avec ce qu'on appelle le New Journalism, tu sais, le journalisme d'immersion. Il y avait quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Aujourd'hui, ça s'est aseptisé un peu partout, mais la société s'est aseptisée. Et c'est pas tout négatif, ça. Tu sais, quand Bertrand dit que M. Beauchamp faisait des colères, les patrons font plus vraiment ça. Puis, quelque part, c'est correct.
Mais
les époques changent.
Mais ils font plus affaire au même monde non plus.
Non, mais ce qu'il faut pas perdre, c'est ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est pourquoi on est là. On n'est pas là pour flatter les protagonistes de l'actualité dans le sens du poil. On est là pour essayer de trouver la vérité, pour donner le vrai score. Qu'importe si tu couvres le sport,
ça n'a pas changé.
La culture, et faut que ça reste. Mais dans une société plus aseptisée, où le journalisme est moins puissant, moins riche qu'il l'était, tu peux perdre ça de vue, mais il ne faut pas perdre ça de vue.
Puis en même temps, le travail a changé, ne serait-ce que par le volume. Bertrand Raymond, je regardais l'autre fois un vieil exemplaire du Journal de Montréal que j'ai chez nous, et c'était la veille d'un match canadien-nordique. Yeah.
Oh, c'est... Combien de pages?
La juste, guerre du silence, ben juste, 15 pages.
Ben c'est ça, mais des pages où il y avait seulement que ta signature comme journaliste, avec différents aspects, il y avait 4 pages dans le Journal de Montréal. Puis 4 pages pleines, là, les publicités, c'était un petit peu plus loin. C'était de l'ouvrage.
Oui,
de la grosse ouvrage, comme
ils disent. C'était pas juste Canadien Nordique, hein, c'était toujours, moi, la couverture du Canadien, là, le matin, il me disait, bon, t'as 4 pages aujourd'hui. Fait que ah ouais. Là, tu écrivais des histoires, tu pouvais écrire 4-5 histoires sur le Canadien, mettais des photos à travers ça. Puis, mais quand tu étais sur la route, c'était la même chose. Puis on avait des problèmes de communication. Des fois, on n'avait pas toujours le gars pour shooter ça au journal. Des fois, on passait 2 heures. Moi, j'ai passé à San Francisco, on avait toujours de la misère quand ils jouaient contre Oakland. Okay. Puis je passais toujours 2 heures assis dans mon lit à lire mes textes au gars qui était en dedans. Puis t'espérais juste que le gars tape vite.
Parce que la personne au bout du fil à Montréal retranscrivait tes textes.
Oui.
À Aïe aïe.
Ah non, maintenant, mais, on fait, moi, j'ai vécu on la fait fin, une saisie puis on fait send.
J'ai vécu la fin de cette époque-là. 99, j'entre au Journal de Montréal et on m'envoie, écoute, dans le désert du Nevada pour couvrir. Il y a des illuminés qui s'étaient rassemblés dans le désert du Nevada pour accueillir des extraterrestres.
Quoi de plus normal?
Bon, regarde.
Un beau mandat.
Pas avec ça que tu vas gagner un poulet dur, mais c'est fantastique. Et tu fais ce métier-là pour vivre des aventures aussi. Ouais. Mais je me souviens de cogner à des portes dans une banlieue du désert là, mm-hmm. pour essayer de prendre une ligne téléphonique ou une ligne de fax pour brancher mon ordi pour l'envoyer parce que l'Internet était encore à ses débuts, à ses balbutiements.
T'es chanceux, t'avais l'ordi.
Ben oui,
nous autres, on avait la vieille dactylo en plastique, oui. Le petit coffret de plastique qu'on traînait sur la route.
Sur des pages 8,5 oz pour aller faire la lecture.
Les corrections, on les faisait sur le feuillet. Là.
Et quand Bertrand dit « je remplissais 4 pages », il faut se rappeler d'une autre affaire, hein? Quand les revenus des journaux ont commencé à baisser dans les années 2000, on a rétréci l'ampleur des pages de journal aussi. Là. Ouais. C'était beaucoup de pages de journal, quatre
les pages ont rétréci et le format de la faute est devenu un petit peu plus gros. Uh-huh. On a grossi les caractères, ce qui fait que vous en aviez du travail à faire.
Mais l'une des raisons pourquoi on avait tant d'espace, c'est qu'il n'y avait pas d'annonceurs.
C'est vrai, les annonceurs.
Quand Jacques Beauchamp est arrivé au Journal de Montréal, les pages étaient libres. Là.
Ouais.
Quand une bonne journée, il y avait un bandeau dans le bas d'une page, c'était quasiment...
La fête au village.
Oui, c'était fête au village. Au moins, il y avait une source de revenus qui venait de rentrer.
On parle de la grosse machine du journal. Maintenant, on en arrive à la fin de l'année. La presse papier va disparaître définitivement.
Oui.
Bon, déjà qu'elle n'existait que le samedi. Là, on passe à autre chose. Ça aussi, ça doit changer le rapport avec le lecteur, d'une certaine manière, Patrick Lagacé?
Je pense pas.
Pourquoi?
S'il y avait eu un changement de relation avec le lecteur, on l'aurait remarqué. Moi, ce n'est pas le cas. Je pensais que quand on a largué l'édition papier la semaine, je pensais que le rapport changerait. Je pensais que la presse serait peut-être moins influente, que j'aurais moins de courriels. C'est pas le cas. Dans les deux cas, au chapitre de l'influence puis de la rétroaction des lecteurs, ça n'a pas changé. Je dirais même que ça s'est amplifié. Donc, là-dessus, moi, mon inquiétude n'est pas sur la nature du support. Mon inquiétude est sur le modèle d'affaires. Les journalistes sont capables d'innover, on est créatif. Est-ce qu'on peut trouver une façon de ramasser de la publicité? Moi, c'est ça ma grande inquiétude.
Ce qui a aidé à conserver l'intérêt, Patrick, c'est que de plus en plus, le journalisme d'enquête est puissant. Maintenant, les politiciens, ils peuvent plus se cacher. Je parle des politiciens, ça peut être les hommes d'affaires, ça peut être même dans le sport. Maintenant, le journalisme d'enquête est tellement fort que le lecteur sait que s'il veut avoir la vérité, c'est là qu'il va la trouver.
Et l'équivalent de la première page, maintenant, c'est justement le fruit d'enquête. C'est pas la nouvelle, c'est pas l'accident qui est arrivé au coin de la rue. Ça, c'était le journalisme d'hier. C'était aussi le journalisme où on s'informait le soir à la télé à 18h. C'est là qu'on apprenait des choses.
Ouais.
Alors qu'aujourd'hui, on apprend des choses à la
toute la journée.
Puis à 18h, on finit par avoir des commentaires sur ce qui s'est passé dans la journée. C'est bien différent.
Bertrand soulève un point important là, quand il parle de ces enquêtes-là.
Ouais.
Quand on parle des médias aujourd'hui, on dit souvent « Ah, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de chroniques, il y a trop d'opinions. » Peut-être, mais parallèlement...
Conséquence normale.
Parallèlement, là, je m'excuse, là, il y a beaucoup d'enquêtes qui se font au Journal de Montréal, au Devoir, à TVA, à Radio-Canada. Est-ce qu'on sort d'un âge d'or du journaliste d'enquête? Je le sais pas. Mais je sais qu'il y a un cycle qui est commencé avec toutes les histoires de construction qui ont mené à la commission Charbonneau. Mais tout ça, là, ça a donné un nouvel élan au journalisme d'enquête.
La proximité, Bertrand Raymond, que vous aviez, vous autres, avec les joueurs, avec les dirigeants d'organisations sportives, j'ose présumer, en lisant 50 ans parmi les géants, ton livre, j'ose présumer que vous avez gardé beaucoup d'informations qui n'ont jamais été publiées. Parce qu'il y avait des histoires là-dedans qui ne sortaient pas. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ceci sort.
Je dirais pas ça.
Non.
Je dirais que ce qui nous échappait, on pouvait pas l'écrire. Comme quand on entendait parler que des joueurs du Canadien avaient été impliqués dans un appelons-le scandale, mais on savait pas exactement qu'est-ce que c'était, mais les informations qu'on avait, on savait une chose, c'est que ça coûtait cher aux Canadiens pour envelopper tout ça. Puis probablement qu'aujourd'hui, ça coûte cher encore.
Mais aujourd'hui, il y aurait probablement, je le sais pas, je le présume, il y aurait probablement un article qui sortirait sur le fait que le Canadien a pu payer pour couvrir un événement, pour recouvrir un événement.
Oui, puis dans ce temps-là, on le mentionnait aussi, là, qu'à un moment donné, il a fallu que, ben, on disait pas comme ça, là, que le Canadien payait pour faire oublier des choses.
Mais il s'organisait pour...
Il s'organisait pour bien camoufler l'affaire.
Patrick Castanet.
Ils en ont camouflé.
Oui. En fait, qu'importe le domaine, moi, je pense que tu peux seulement écrire sur ce que tu peux prouver.
C'est ça.
C'est-à-dire que c'est bien beau de soupçonner...
T'auras beau tout savoir. Qu'est-ce...
Qu'importe où, que ce soit au Canadien ou au ministère X, s'il y a eu un scandale, faut que quelqu'un parle. Tu vois, prends toutes les histoires qui entourent Éric Salvaille. Là, il y a des gens qui disaient, quand c'est sorti dans la presse cet automne, il y a des gens qui disaient tout le monde le savait. Pourquoi vous ne l'avez jamais sorti avant? Pourquoi on ne l'a jamais sorti avant? Parce que personne ne parlait.
Pas moyen d'enfoncer le clou nulle part.
Je veux dire, Katia Gagnon, la journaliste qui a sorti cette histoire-là, avec ma collègue Elisabeth Vallet, a essayé il y a 2 ans, 3 ans de faire parler des gens. Personne ne voulait parler. Et là, à un moment donné, des fois, il arrive ce qu'on appelle dans la vie le timing. Là, il y a des gens qui étaient disposés à parler. Fait que les scandales qui entourent le Canadien, c'est la même chose. Hey, appelez des journalistes d'enquête ou appelez des journalistes sportifs, puis confiez ce que vous savez, puis peut-être que ça va sortir. Mais si personne ne parle, tu peux pas écrire là-dessus.
Sauf qu'avec les réseaux sociaux maintenant et les rumeurs qui partent et qui partent fort, là, puis ça prend pas
de temps.
C'est
dangereux, ça, là. Tu t'accordes l'importance à ça.
Sauf que, est-ce que les journalistes, maintenant, sont en compétition avec les réseaux sociaux ou les journalistes restent en compétition avec les confrères des autres médias?
Je dirais qu'ils sont branchés sur les médias sociaux. Ils essaient d'aller chercher de l'information là.
Ouais.
Mais quand une primeur t'est donnée, là, de sources sûres, là, sur Twitter, là, fais attention, embarque pas là-dedans, parce que des gens qui savent des affaires, on en connaît. S'il fallait tout publier ce qu'on nous dit, et des fois que tu penses que t'as une bonne histoire, mais t'as rien qui se rattache à ça, t'es pas capable de faire le lien pour écrire l'histoire, tu te dis, ça, parce que si je suis bien content de pas l'avoir faite parce que c'était pas bon.
Sauf que Patrick Lagacé, toi, dans le rôle que tu as à la presse, où tu es vraiment sociopolitique, et j'ai été incapable de faire la part des choses en regardant mes notes, là, tu fais autant de la politique que du social, tu parles autant du ministre que de celui qui n'a pas droit à ses prestations. On doit souvent te soumettre des problèmes, des cas.
Oui, et heureusement.
La part de ce que l'on te soumet et de ce qui se retrouve dans la presse, ça ressemble à quoi?
Ah, c'est le proverbial iceberg. Tu sais, ce qui se retrouve dans la presse, c'est la pointe de l'iceberg. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas que je cache des scandales, mais quand j'écris mes opinions, c'est mon opinion, évidemment. Mais les histoires plus humaines que je raconte, à 90%, ça sort de ma boîte de courriel. Je peux pas. C'est difficile d'aller chercher ces histoires-là. Les gens me soumettent ça. Et moi, mon défi, c'est de lire tous mes courriels dans une journée pour pas en rater.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est beaucoup de gestion avant même d'écrire une ligne.
Oui.
Votre rêve, vous autres, comme petit gars, c'était d'écrire dans des journaux, puis d'écrire. Sauf qu'on se rend compte que la portion cléricale du travail est rendue... Ben, elle a toujours été comme ça, j'ose présumer. Ça doit être un méchant choc pour les journalistes de se rendre compte qu'ils doivent consacrer plus de temps à la gestion de l'information qu'à la livraison de l'information.
Et quand tu parles des informations qu'on se fait offrir pour des papiers à caractère humain...
Ouais.
C'est souvent les meilleures histoires. Quelqu'un qui nous appelle pour dire « Hey, il y a une bonne histoire humaine à faire là, puis je pense que t'es le gars pour la faire. »
Oui.
Et de sorte que sans le vouloir, j'ai comme développé un créneau là-dessus. J'aimais tellement ça, écrire sur les gens. J'aimais plus... Moi, le sport statistique, ça me disait plus rien. Puis les résultats de match, c'était secondaire pour moi. Je voulais parler des gens. Et j'ai éprouvé un très grand plaisir à le faire. Et de sorte que quand tu es identifié comme étant capable de faire ce genre de choses-là, ça t'ouvre des portes aussi.
Oui.
Tu sais, j'ai déjà vécu une situation où un jeune gardien de but sur la glace dans le hockey mineur s'est fait trancher la gorge par un coup de patin, il est mort sur la glace. Et quand j'ai appelé les parents, ben, ils savent comment je peux tourner une histoire comme ça. Ils savent que ce sera pas un papier à sensation. La porte s'ouvre. Et quand tu es assis à la table de la cuisine, tu sais, à un moment donné, il se développe comme une espèce d'empathie. T'es un journaliste qui... Ben, moi, j'ai vécu des choses, j'ai été égratigné aussi, mais alors, ça m'a aidé à développer comme une espèce de sentiment que je pouvais ressentir exactement ce que la personne devant moi ressentait.
Et c'est là qu'on s'en va dans les vraies affaires.
Oui, puis là, vois-tu, la mère avait dit cette fois-là, ben, vous pouvez pas vraiment me comprendre, vous êtes juste un journaliste. J'ai pas dit un mot, mais je savais que le lendemain matin, quand elle lirait le journal, qu'elle saurait que je l'ai compris.
Oui.
On réfléchit à tout ça. On va faire une petite pause pendant 2 minutes. Mais Patrick Lagacé, garde ce que tu voulais nous dire. D'accord. Avec Bertrand Raymond, ce matin, on a beaucoup de plaisir à parler de journalisme et de choses et d'autres. Vous écoutez Entre nous.